Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Siri et les autres assistants vocaux sont nuls face à l'intelligence artificielle générative et ça commence à se voir, y compris auprès des créateurs de ces assistants. On en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, sortez les aspirines, puisque Anthony va nous proposer un topo sur le Wi-Fi 6E. Oui, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous rassure, ça ne s'arrange pas. Nous sommes le mardi 7 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. L'intelligence artificielle générative de ChatGPT et de ses concurrents va-t-elle enterrer les assistants tels qu'on les connaît aujourd'hui? Les réponses données par les bots conversationnels sont en effet bien plus précises et pertinentes que celles de Siri, de Google Assistant ou encore d'Alexa. Ces assistants s'appuient sur des modèles qui sont loin d'être aussi performants que les grands modèles de langage développés par OpenAI. Le constat a en tout cas été fait par Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui n'a pas hésité à dire tout le mal qu'il pensait de Cortana. Cortana, c'était justement l'assistant de Microsoft et à une époque, l'éditeur avait beaucoup misé dessus avant de finalement abandonner en rase campagne. Nadella estime en effet que tous ses assistants sont, je cite, « bêtes comme leurs pieds », qu'ils ne fonctionnent tout simplement pas. Adam Scheyer, un des cofondateurs de Siri, n'a pas de mots plus tendres pour les assistants. D'après lui, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Résultat, eh bien, personne ne les utilise. En revanche, ça changera peut-être dès lors que les assistants utiliseront l'intelligence artificielle générative et c'est bien cet avenir qui se dessine. Reste à savoir si Apple compte doper Siri à ChatGPT ou à une technologie maison. Puisqu'on parle des bots intelligents qui tapent la discute, poursuivons sur cette voie avec notre dernier sondage sur le sujet. On a voulu savoir si de votre côté vous vous serviez de ces technologies pour avoir une réponse à une question tout simplement, pour vous aider à générer du code pour les développeurs ou pour n'importe quelle autre raison. Dans notre dernier sondage, vous êtes une bonne majorité à vous servir de ces bots, 10% d'entre vous tous les jours et 20% occasionnellement. Vous êtes 30% à avoir juste essayé sans aller plus loin. Et dans une même proportion, vous n'avez jamais essayé. Est-ce que l'intelligence artificielle générative est là pour durer ou est-ce que ce n'est qu'une passade? C'est impossible à dire, mais ce qui est sûr, c'est que cette technologie suscite une certaine curiosité. En France, Apple TV Plus n'a pas l'air de faire spécialement recette, mais tout de même un petit peu. Le service de streaming est désormais tenu de participer au financement de la création française et européenne, vu qu'il dépasse les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Apple a confirmé que sa plateforme devait désormais mettre au pot la loi l'obligeant à reverser 20% de ses revenus à la production audiovisuelle. Cela donne une série comme Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel, et d'autres créations à venir. L'intérêt de cette information, bah c'est surtout de savoir qu'Apple TV Plus représente maintenant un petit quelque chose en France. C'est notre aventurier de l'impossible, le véritable Indiana Jones de la rédaction qui n'hésite pas à fouiller dans les tréfonds des technologies les plus obscures pour mettre au jour tous ces trésors insoupçonnés. Je parle bien sûr d'Anthony qui a plongé les mains dans ce panier de crabe du Wi-Fi 6E pour tenter de répondre à la question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce qu'il faut acheter un routeur Wi-Fi 6E? Vous allez voir, la réponse ne va pas forcément de soi. Salut Anthony.
Ville flatteur, salut Mickaël, salut à tous.
Alors déjà, il faut faire le distinguo entre Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E et ce qu'apporte ce nouveau standard concrètement.
Alors la Wi-Fi Alliance, qui est le groupe qui chapeaute tout ça, c'est un peu comme les Shadok.
Ouais.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Au lieu de communiquer sur les normes 802.11, comme 802.11ac par exemple, elle parle maintenant de génération de Wi-Fi, Wi-Fi 5 par exemple. Sauf qu'elle n'a pas attendu que les discussions sur l'ouverture de la bande des 6 GHz soient terminées pour présenter le Wi-Fi 6. Ça aurait été bien, Wi-Fi 6, 6 GHz,
oui.
Ça aurait été sympa. Et comme le Wi-Fi 7 est franchement pas pour tout de suite, on se retrouve avec une génération intermédiaire qui s'appelle 6E. Donc ça y est, on est passé aux chiffres, mais on remet des lettres. Et donc Wi-Fi 6E, le E c'est pour étendu, c'est vraiment ça, hein. C'est du Wi-Fi 6, rien d'autre que du Wi-Fi 6 qu'on étend dans la bande des 6 GHz.
D'accord. Alors je sais que c'est très compliqué à expliquer en écrit et encore plus à l'oral, mais est-ce qu'il y a un moyen de décrire le Wi-Fi 6E sans avoir à prendre d'aspirine?
Cet épisode est sponsorisé par Doliprane. Mais donc, la bande des 6 GHz, ce sont les fréquences radio qui sont entre 5925 et 7125 MHz. Elles ont été libérées, plus ou moins libérées, à peu près partout dans le monde depuis quelques années. Et évidemment, pour comprendre son intérêt, il faut revenir en arrière. Le Wi-Fi 1, le tout premier, il utilisait la bande des 2,4 GHz, qui offre une portée, on va dire, de 300 mètres dans un environnement dégagé, avec un débit relativement réduit. Si ma mémoire est bonne, c'était 11 mégabits par seconde à l'époque. Ouais. Le Wi-Fi 2, donc juste après, s'est mis à utiliser la bande des 5 GHz, qui a de meilleurs débits, 50 mégabits à l'époque, mais la portée est réduite, une grosse dizaine de mètres, maintenant quelques dizaines de mètres. La bande des 2,4, c'est une toute petite bande entre 2412 et 2472 MHz, ça fait 60 MHz. Dans 60 MHz, on met 3 canaux de 20 MHz, et on peut mettre qu'un seul canal de 40 MHz. La bande des 5 GHz, elle, elle a 500 MHz. Avec 500 MHz, on peut mettre 25 canaux de 20 MHz, on peut mettre 12 canaux de 40 MHz, on peut mettre 6 canaux de 80 MHz, donc on en fait déjà beaucoup plus. Le seul petit problème, c'est qu'elle est partagée en deux blocs. 5170, 5330 et puis 5490, 5835. Donc on peut y mettre que deux canaux de 160 MHz alors qu'elle fait 500 MHz. Les canaux, j'en parle parce que c'est important, parce qu'à l'intérieur on peut mettre ce qu'on appelle des unités de ressources, et dans ces unités de ressources on peut mettre des sous-porteuses. Les sous-porteuses, c'est vraiment l'élément le plus petit qui définit la connexion à un réseau Wi-Fi. Dans un tout petit canal de 20 MHz, tu peux mettre 256 sous-porteuses. Donc forcément, quand tu as un gros canal de 160 MHz, tu peux balancer quelques sous-porteuses. Quand tu mélanges tout ça, des unités de ressources, des canaux, on en connecte plusieurs, machin, truc, muche, bah, tu peux connecter à un seul routeur Wi-Fi des centaines d'appareils, balancer des centaines de mégaoctets par seconde, voire des dizaines de gigaoctets par seconde. Et donc forcément, quand tu arrives avec la bande des 6 GHz, la bande des 6 GHz, c'est un bloc de 1180 MHz. Ça te fait 59 canaux de 20 MHz supplémentaires, ça te fait 29 canaux de 40 MHz en plus, ça te fait 14 canaux de 80 MHz, ça fait 7 nouveaux canaux de 160 MHz. QCM à la fin de l'épisode pour le nombre des canaux. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est que ça fait un paquet de bandes passantes supplémentaires avec une vitesse ultra rapide. Le problème, c'est qu'évidemment, la portée est encore un peu plus réduite.
Les bénéfices immédiats du Wi-Fi 6E ne sont pas forcément évidents en Europe, en tout cas, vu que l'Union européenne y va très prudemment pour ouvrir la bande des 6 GHz.
Ouais, je disais que cette bande a été libérée un peu partout dans le monde. Le problème, c'est que chacun l'a fait dans son coin avec une définition légèrement différente. D'accord. Encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? L'Union européenne, elle a ouvert que les 480 premiers MHz. Donc si vous êtes fort en maths, ça fait 3 fois 160 MHz. Ça limite un peu l'intérêt à court terme. Je l'ai dit, à long terme, j'ai aucun doute qu'on ouvrira le reste. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec les canaux de 160 MHz, c'est qu'en 5 GHz, donc avec le Wi-Fi 6 tout court, on ne peut pas toujours les utiliser parce qu'ils empiètent sur la bande qui est utilisée par les radars météo. Et donc il y a un truc qui s'appelle DFS, c'est un système de sélection dynamique de la fréquence qui peut couper les canaux de 160 MHz pour éviter les interférences. C'est notamment pour ça que les réseaux Wi-Fi près des aéroports, ça marche mal. Parce qu'en général, on coupe ces canaux-là. Et l'autre avantage de la bande des 6 GHz, c'est justement qu'on peut utiliser ces canaux-là, parce que c'est une autre bande de fréquence, donc il n'y a pas de souci d'interférence avec les radars météo. Donc même avec seulement 3 canaux de 160 MHz en Europe, ça a quand même changé les trucs de passer en 6E.
Alors, tu as testé des routeurs Wi-Fi 6E, il n'y en a pas des masses, ils sont encore assez chers, et les résultats sont, on va dire, pas forcément évidents à interpréter, c'est même un petit peu décevant, finalement.
Oui, alors on a déployé notre premier réseau Wi-Fi 6E avec un système mesh Asus Zen Wi-Fi Pro ET12. C'est assez sympa, c'est un truc, ils ont mis des antennes dans un bloc en plastique transparent avec des diodes, parce que pourquoi pas. Juste pour vous rappeler le contexte, nos bureaux à Lyon, c'est deux ailes, avec entre les deux un mur porteur, un truc immense en béton, qui est vraiment problématique. On a tiré une fibre à 10 gigabits par seconde entre les deux, et donc comme d'hab, j'ai mis un point d'accès dans une aile, un point d'accès dans l'autre aile, et puis j'ai comparé au système qu'on utilise d'habitude, qui est un système Orbipro SXK80.
D'accord.
J'ai pris des notes pour cet épisode.
Très bien, je te félicite.
À courte distance, je dois dire qu'il est très compliqué de voir la moindre différence. Par contre, à longue distance, on voit que le système Wi-Fi 6E, bah, il est plus lent. Et c'est assez facile à comprendre, encore une fois. Sur le Wi-Fi 6, bah, on est sur la bande des 5 GHz. La portée est ce qu'elle aime, enfin, c'est quand même pas mal. Donc j'accroche encore la bande des 5 GHz. Mais avec le 6E, plus je m'éloigne, plus c'est difficile de capter la bande des 6 GHz. Et quand je la perds, cette bande, les appareils ont tendance à tout de suite repasser en 2,4 GHz. Donc là, vraiment, les débits s'effondrent. Ça dit, entre les deux, pile entre les deux points d'accès, j'arrive vraiment à gratter encore quelques mégaoctets par seconde. notre système Orbi, là, il plafonne autour des 700 mégas par seconde, ce qui est quand même pas mal. Mais avec le système Asus, en 6E, j'arrive à frôler 830-840 mégas par seconde. Le seul problème de tout ça, c'est que la Wi-Fi Alliance, elle disait, alors avec le 6E, vous allez pouvoir jouer en ligne sans latence, vous allez pouvoir diffuser des vidéos 8K, vous allez pouvoir faire de la réalité virtuelle. Ouais. On attend le streaming 8K, la réalité virtuelle, ouais, d'accord. mais surtout, dans mes tests, la latence ne bouge pas. Ouais. Qu'on soit en Wi-Fi 6 ou en 6E, qu'on soit à 2 mètres, à 10 mètres, c'est la même chose. Et à la fin, l'élément limitant, c'est pas le Wi-Fi, c'est la box de l'opérateur qui est branchée à côté de l'entrée fibre.
Alors, il y a un autre problème en ce qui nous concerne très directement, c'est que Apple prend son temps pour intégrer le Wi-Fi 6E à ses produits.
On va encore faire des maths, vous êtes prêts? On compte sur les doigts.
Aïe, aïe.
Premier doigt, iPad Pro 12.9 de 6e génération. Deuxième doigt, iPad Pro 11 pouces de 4e génération. Troisième doigt, MacBook Pro 14 pouces 2023. Quatrième doigt, MacBook Pro 16 pouces de 2023. Ouais. Cinquième doigt, Mac Mini 2023. Vous avez une main, et avec une main, vous comptez tous les produits compatibles Wi-Fi 6E chez Apple en 2023. Il n'y a pas un seul iPhone compatible. Pour ça, il faudra probablement attendre l'automne et l'iPhone 15.
Finalement, le mieux, ce ne serait pas tout simplement d'attendre que la nature fasse son boulot et que le Wi-Fi 6E soit directement proposé dans les box des opérateurs, parce que ça évitera de payer pour un routeur dont l'utilité est quand même assez discutable.
Quand même l'impression que ce sera le plus simple. Et puis ça commence déjà chez Orange, par exemple, avec la Livebox 6. C'est aussi le cas, a priori, chez Bouygues et Free, avec les dernières Bbox Ultime et Freebox Delta. C'était pas le cas des premières. Puis j'aime bien cette idée que quand la question « faut-il acheter un système Wi-Fi 6E » disparaîtra, puisque ce sera le cas, ce sera pile le moment de se poser une nouvelle question qui, évidemment, nous forcera à enregistrer un nouvel épisode. Faut-il acheter un système Wi-Fi 7 ?
Ouf, et bien voilà, on espère que vous avez maintenant une image un peu plus claire du Wi-Fi 6E. Je vous renvoie vers l'article du Club Hygène, qui est très complet. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures aventures.